le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Le rappeur Kanye West a sorti son dernier album 20 ans après le tout premier. On vous raconte l'histoire d'une ascension, puis d'une chute vertigineuse. Mais d'abord, le prestigieux guide Michelin a décerné ses étoiles cette semaine. On va voir si c'est toujours un objectif pour tous les cuisiniers. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Une, deux, trois étoiles, c'est la distinction suprême pour les restaurateurs et les restauratrices. Mais ces récompenses viennent aussi avec des obligations, des responsabilités et une certaine pression. Alors comment le vivent les cuisiniers? La course à l'étoile, est-ce toujours un graal ou plutôt une obsession du passé? Arthur Boulanger a voulu répondre à ces questions en rencontrant deux chefs de cuisine et un journaliste spécialisé.
Franck Pinert-Abarousse, moi je suis journaliste depuis maintenant, très longtemps, depuis peut-être 30 ans. J'ai travaillé dans la presse professionnelle de la gastronomie il y a une quinzaine d'années. Le Michelin, dans une époque compliquée aujourd'hui, et encore plus compliquée qu'il y a un an, avec tous les problèmes que l'on connaît, l'inflation et la difficulté des restaurants à tenir la barre, en France comme en Belgique, voit un guide qui s'éloigne de plus en plus des chefs et qui revendique une forme d'autonomie à tous les niveaux, et que du coup, ce sont presque deux mondes qui commencent à s'ignorer, et qu'à un moment donné, le guide sent sa vache à lait des chefs, en quelque sorte, je schématise un tout petit peu, pourrait tout à fait mourir d'un point de vue économique et d'un point de vue d'image.
Moi, je m'appelle Isabelle Arpin, je suis chef de cuisine, nombreuses années. Voilà, le Michelin, je pense que c'est toujours une institution qui est très respectée, ça j'en suis persuadée. Ça peut être parfois controversé, c'est vrai, mais en tout cas c'est respecté, il suffit de voir la sortie des guides, les commentaires qui suivent. Je pense pas qu'il y ait un seul guide qui ait cette effervescence ou qui ait cette reconnaissance mondiale, on va dire.
Je suis Christophe Hardiquest, chef propriétaire du restaurant Mensa à Woluwe-Saint-Pierre, anciennement restaurant Bonbon. Le guide Michelin doit aujourd'hui s'adapter comme toutes les entreprises. On est en 2024, on n'est plus dans les années 80. Je crois que le guide Michelin s'adapte aujourd'hui aussi. Il y a des street food qui ont une étoile. Donc ils sont juste reconnus par rapport à leur travail et à ce qu'ils font.
Comme les inspecteurs de Michelin disent, quand l'artisanat devient art, attention.
La Rosée, Marie Grignon.
De plus en plus, on voit des chefs de la nouvelle génération qui, ou même d'ailleurs de l'ancienne génération, qui s'en défient parce qu'ils ne le comprennent plus. Mais il y a toute une génération qui se moque en tout cas du guide Michelin en disant qu'ils n'ont pas besoin du guide Michelin pour remplir le restaurant. Un, parce que le guide Michelin est en baisse constante. On a fait des statistiques avec un économiste qui montre très très bien la chute d'influence du guide Michelin, d'une part, et d'autre part parce que les chefs deviennent leurs propres médias. Et on le voit avec des émissions en France comme Top Chef ou d'autres, où finalement ils deviennent leurs propres vecteurs de communication, et certains chefs aujourd'hui n'ont pas besoin de s'appuyer sur un guide. Et donc je dis, mais finalement nous, avec nos millions de followers sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, on est plus influents qu'eux, donc on va pas s'embêter à vouloir plaire à un guide, à répondre à des canons de beauté culinaire, et on va être notre propre influenceur.
Bonjour, c'est Éloi Spinner du restaurant Orgueil et bienvenue dans Finis ton assiette. J'invite une personne qui m'inspire, que je trouve intéressante.
Bon alors pour cet épisode, on se trouve à Annecy et on va cuisiner une super recette hivernale. Beaucoup de fromage, du beurre, de l'amour comme d'habitude.
Action! Alors aujourd'hui on va faire une recette un peu atypique, on va faire des pâtes au café avec une sauce genre crevette et rhum dinguerie.
En fait, c'est une question de frontières aussi. Il y a une question de société où, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des chefs s'estiment être indépendants du jugement d'un guide. La nouvelle génération, là-dessus, a un petit côté frondeur. Elle se plaît à ne pas se plier aux dictats d'un guide dont ils ne comprennent pas le fonctionnement.
Ces gens qui se désintéressent du Michelin ou des guides en général, ça naît d'un désenchantement, d'une déception, ou bien ils attendent quelque chose absolument et ça crée de la frustration. Et donc après, la haine et l'amour sont deux sentiments très proche, donc on peut passer de l'amour inconditionnel à la haine inconditionnelle.
Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis dans la compétition, en fait. Et donc, moi, je travaille plutôt dans l'idée de faire bien ce que je fais, d'essayer d'être le plus parfait que ce soit, mais pas dans un but de recevoir une récompense ou d'être primé. En tout cas, oui, quand j'ai fait l'école hôtelière, c'était vraiment, un graal. C'est la récompense suprême.
Le guide Michelin, les guides en général, sont des reconnaissances dans le milieu professionnel de la cuisine. Elles vous permettent d'être reconnues par vos pairs. Elles vous permettent d'être respecté. Et donc, on a cette sensation de devenir quelqu'un, je dirais, mais je dis ça avec beaucoup d'humilité.
Après, dans mon cas, moi, je suis pas ou plus en quête de ça, quoi. Je n'ai plus besoin de ça, ni pour moi-même, ni pour mes équipes. Et quand elles me suivent et dans mes idées aussi. Donc là, je travaille dans une idée d'excellence. J'ai des beaux produits, j'ai des producteurs qui font bien leur travail. Et pour moi, ça, c'est déjà très important. Je compare toujours le Michelin aux Oscars. Il y a beaucoup de candidats ou de films potentiels à être élus. Et on en choisit. Ça ne veut pas dire que le travail des autres n'est pas à niveau ou n'est pas qualitatif.
Au départ, l'objectif n'est pas de faire une étoile Michelin, mais de cuisiner. Mais néanmoins, à côté de ça, le Michelin m'a permis de m'en sortir. Les guides, quand vous êtes dans le rouge, comment j'ai démarré avec 2 500 euros il y a 23 ans, et j'étais dans le rouge. Donc, je veux dire, la reconnaissance m'a permis quand même de pouvoir lancer mon business et de pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Donc, une fois de plus, je vous dis, le référencement est quelque chose d'important pour les jeunes restaurateurs, ce qui leur permet à un moment donné de pouvoir valider et valoriser leur affaire à un autre niveau.
Je crois que donner le meilleur de soi-même, c'est essentiel. Être bien dans ce qu'on fait, passionné, rester dans l'humain, c'est aussi ce qui a beaucoup changé. Et je pense que ça viendra. Je pense qu'il faut être soi-même et il faut faire sa cuisine, en fait. Il ne faut pas chercher à être dans le guide ou à avoir une étoile. Je crois qu'alors, on perd de son ADN et on perd dans sa créativité si on veut s'adapter au Michelin. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est assez compliqué parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi ou pourquoi pas l'étoile est attribuée. Donc, je crois qu'il faut vraiment, vraiment être soi-même. Je crois qu'on est plus créatif quand on arrive à se développer de cette façon.
Mais c'est sûr que oui, il y a une pression quand vous avez investi. Parce qu'il y a quand même ce réflexe pour un chef, lorsqu'il gagne une étoile, il investit. Il investit parce qu'il a tellement peur de la perdre, justement. Il va employer plus de personnes, il va améliorer la qualité de ses produits, donc il va avoir des coûts de produits, des coûts matières plus importants, avec souvent malheureusement un chiffre d'affaires qui ne va pas forcément augmenter beaucoup puisqu'il ne peut pas augmenter ses prix, puisqu'aujourd'hui le critère du prix est un critère très différenciant pour choisir son restaurant. Donc souvent il y a un effet ciseau, on augmente ses coûts mais on ne gagne pas en chiffre d'affaires, voire on en perd un tout petit peu. Donc il faut savoir gérer l'étoile en quelque sorte à tous les niveaux, psychologique, économique. Et même personnel, à vrai dire.
La pression, quand on est plus jeune, on vit ça difficilement. On est stressé avec ça, effectivement. Il faut vraiment prendre ça avec sérieux, évidemment, mais continuer à vivre son métier avec passion. Voilà. Donc la pression, aujourd'hui, je dirais que je suis relax avec ça. Voilà. Mais je veux la qualité, mais je veux que mon restaurant soit d'un niveau 3 étoiles, peu importe s'il a 0, 1 ou 2 ou 3 étoiles. Donc c'est mon envie de donner de la qualité, de réjouir mes clients, de leur donner du bonheur. Voilà.
Mais ça, je trouve que c'est assez personnel, en fait, tout compte fait. Hein. C'est vraiment une question de personnalité et de où dans sa vie, où est-ce qu'on est, est-ce qu'on veut prouver quelque chose à soi-même, aux autres. Souvent, il y a ce qui se passe aussi, c'est ça en fait. Parfois, on a besoin de ça et parfois, on n'en a plus besoin.
C'est l'histoire de la chute d'Icare, un mortel qui s'est cru plus puissant que tous les autres, qui s'est approché du soleil jusqu'à tomber dans les abîmes les plus profonds. L'histoire d'un musicien, acclamé par ses pairs et par la critique, avant de sombrer dans le racisme le plus crasse. En 20 ans, le rappeur Kanye West a sorti 14 albums. Il a aussi suscité un nombre incalculable de polémiques. On revient sur ce parcours entre tube et dérapage avec Didier Zachary du Pôle Culture. Wake up, Mr. West! Mr. West!
Yeah. And I heard him say, nothing's ever promised tomorrow today. Bonjour Didier.
Bonjour Pierre.
Vous publiez un long portrait du rappeur, producteur, musicien Kanye West. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, pourquoi consacrer cette pleine page à l'artiste américain?
Alors le hasard du calendrier veut que son nouvel album sorte 20 ans exactement après son premier album. Et entre les deux, il y a une différence, un gouffre béant entre le Kanye West qui a débarqué en 2004 et celui d'aujourd'hui, plein de propos antisémites, racistes, anti-noirs, trumpistes, etc.
On va construire ce podcast de façon chronologique. En 2004, quand Kanye West débarque, parce que c'est presque le terme qu'on peut utiliser vu l'effet que ça a eu sur toute l'industrie de la musique, c'est qui et qu'est-ce qu'il représente à ce moment-là ?
Il ne représente pas grand-chose, quoi. C'est juste un beatmaker pour des rappeurs comme Jay-Z, tout ça. Personne ne le prend vraiment au sérieux, mais alors il débarque avec son premier album et c'est une bombe, quoi. We are war with terrorism, racism. Il arrive avec une énergie, donc il y a un titre qui s'appelle Jesus Walk. God show me the way because the devil's trying to break me down. il se prend clairement pour le guide du peuple qui va libérer le peuple noir américain.
Il y a un côté très christique dès le début, un côté messianique dans la musique de Kanye West.
À son complexe messianique, il a depuis le début, ça c'est clair quoi. Mais il y a comme une idée qu'il essaie de transmettre un peu cette confiance qu'il a en lui au peuple afro-américain en fait.
C'est un artiste complet, vous l'avez dit, producteur, beatmaker, il devient rappeur, chanteur lui-même, il sort plusieurs albums qui fonctionnent bien et il devient une icône de la pop. C'est grâce à lui notamment que le hip-hop devient la nouvelle pop.
C'est ça ouais, c'est un peu à l'instar de Michael Jackson qui est une de ses idoles, où il sort un peu le hip-hop du ghetto et il en fait vraiment la nouvelle pop mainstream que tout le monde écoute quoi. C'est le genre musical le plus écouté dans le monde et c'est via Kanye West entre autres, mais principalement via Kanye West que ça se passe.
On ne compte plus les récompenses, les critiques dithyrambiques sur nombre de ses albums. Et puis, il y a un moment où il vrille, il y a un moment où il switch vraiment Kanye West.
Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un moment où c'est plutôt...
Il n'y a pas un élément qui fait que tout d'un coup il...
Il y a quelques éléments. D'abord, il y a l'ascension qui est fulgurante, quoi, qui en fait le musicien le plus influent de son temps, en fait. Et alors, il y a deux éléments. Et d'un côté, il y a la mort de sa mère. Il perd ses garde-fous, en fait. Il y a d'un côté la mort de sa mère en 2007, et puis le divorce avec sa femme, Kim Kardashian, qui, on a bon penser ce qu'on veut, mais elle connaît deux, trois choses sur le marketing et sur la communication, qui fait que les garde-fous tombent. Et alors, la parole est complètement libérée, va dans tous les sens, et...
C'est ça, il passe de cette star de la musique adulée. On avait effectivement zappé cet épisode, mais un mariage surmédiatisé avec la star de télé-réalité Kim Kardashian. Et puis, à partir du moment où, comme vous le dites, ses garde-fous tombent, là, il commence littéralement à faire n'importe quoi, à grands coups d'interviews et de prises de parole.
Mais surtout que... Il semble un peu, au fil des interviews et des années, il semble un peu prisonnier de son personnage, de son statut de superstar, et c'est un peu comment garder ce statut, comment aller plus loin, comment aller plus haut encore. Et c'est vraiment le mythe d'Icare, en fait, où il vole beaucoup trop près du soleil et finit par se brûler les ailes. En fait, c'est un peu pire que ça, parce qu'il y a une véritable autodestruction chez Kanye West, quoi. Il est son pire ennemi. Il le prouve sans cesse ces derniers temps.
Et ça se matérialise par des moments extrêmement forts, extrêmement gênants, en l'occurrence.
When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice.
Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now who's gonna be the Medici family and stand up and let me create more?
Il y a plein d'interviews où il tient des propos, notamment sur des plateaux avec des présentateurs ouvertement d'extrême droite complotistes, et on a l'impression que les présentateurs en question sont presque choqués de la teneur des propos de Kanye West.
Ah bah oui, c'est un peu qui va aller le plus loin, et quand il lâche « j'aime les nazis, j'aime Hitler », personne n'ose dire ça, même parmi les plus complotistes des conservateurs américains. C'est un peu... Qu'est-ce qu'il a en tête, en fait?
On a parlé tout à l'heure de cette espèce de sentiment d'élu du peuple qu'il avait, d'élu du peuple qu'il a déjà mis à l'avantage des communautés noires, notamment juste après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Et puis, on a l'impression que de nouveau, Ivry, et il s'inscrit en faux contre sa propre communauté.
Oui, donc ça c'est quelque chose de vraiment bizarre. Si on reprend chronologiquement, en 2005... Peu après l'ouragan Katrina, il est en direct à la télévision pour un téléthon et il sort du script et il lance « George Bush ne se préoccupe pas des Noirs ».
George Bush doesn't care about black people. I hate the way they portray us in the media. If you see a black family, it says they're looting. If you see a white family, it says they're looking for food. And you know it's been 5 days because most of the people...
Donc à ce moment-là, c'est vraiment l'élu du peuple. Personne n'osait dire ça, un truc comme ça, quoi, du président des États-Unis. Et alors aujourd'hui, dîner avec des suprémacistes blancs, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Un psychologue américain parle de quelqu'un qui s'est tellement éloigné de lui qu'il en vient à se haïr et à s'autodétruire.
Et donc à détester sa propre communauté aussi.
Et à détester sa propre communauté. Pour un chroniqueur du New York Times qui s'appelle Charles Blow, c'est beaucoup plus simple. En fait, l'ambition de Kanye West serait d'atteindre la position de l'homme blanc, c'est-à-dire la position de pouvoir. You know why people get money, don't spend
it. Or maybe they get money by business. Il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée. Kanye West, c'est aussi l'histoire d'une maladie. Il y a quelques années, il a été diagnostiqué bipolaire par un médecin.
Alors, il a été diagnostiqué bipolaire, donc ça veut dire que l'euphorie, on va dans les très hauts et on descend vers les très bas. Il y a un peu une maladie des artistes, entre guillemets. C'est Emmanuel Carrère qui disait que beaucoup d'artistes avaient ça, en fait. C'est une question de savoir gérer ses émotions, en fait. Et alors, malheureusement, le médecin qui lui a prescrit les médicaments et a diagnostiqué cette maladie était juif. Et à partir de là, c'est là que les propos antisémites commencent à aller, parce que selon lui, les médicaments lui ont volé ses super-pouvoirs. Parce qu'il faut savoir que Kanye était en studio jour et nuit, il dormait quasiment pas. Et fin 2016, il est admis de force à l'hôpital psychiatrique pour épuisement, en fait.
Une des conséquences aussi de ces très nombreux dérapages, c'est un arrêt de plusieurs contrats publicitaires. Il y en avait notamment un avec la marque de sport Adidas, un contrat extrêmement rentable qu'Adidas a fini par arrêter tout simplement.
Oui, parce que c'était d'autant plus gênant pour Adidas que le fondateur d'Adidas était lui-même membre du parti nazi. Donc l'amalgame était un peu difficile de rester avec Kanye West, mais le contrat était tellement juteux, donc on parle, je pense que ça faisait 10% du chiffre d'affaires par an, les chaussures Yeezy en vente pure, qu'il a fallu bien quelques semaines quand même pour que Adidas casse ce contrat.
Dernière petite chose, vous l'avez dit en introduction, il y a un nouvel album qui sort, c'est l'album de la rédemption ou pas du tout?
Ça pourrait, on dit ça à chaque album, il y a toujours des passages de rédemption, il y a quelques morceaux qui sont assez touchants. Oui, il dit clairement qu'il est en train de mourir et qu'il était trop loin. Et à côté de ça, il est toujours dans la bravade, encore avec des punchlines un peu, on va dire, stupides, très, très immatures, encore antisémites et tout ça. Et donc, c'est pas encore le moment de la rédemption. Il y a toujours des passages où on se dit, ok, maintenant ça y est, mais il y a encore du boulot.
Merci beaucoup, Didier.
Merci à vous, Pierre. On this hopeless night, came 1,000 miles to see you smile tonight. Your smile tonight, oh, smile for me tonight.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.